5, 4, 3, 2, 1, t'es top.
L'auberge espagnole sur Divergence FM, vie associative, culture, science, environnement, tout y passe et tous y passent.
Un artiste, qu'on va dire au sens du terme large.
C'est la grosse nouveauté de l'économie sociale, a du sens.
On est loin de l'abrogation totale des gaz de schiste en France.
Moi, trash, ça va être pégueux, je pense.
L'idée, c'est de sortir de l'ordinateur.
Tout le truc que je kiffe.
Jardin sec, pourquoi le faire? Quels sont les coûts?
On reconnaît la langue du cinquième élément.
Vraiment un mur de guitare, comme un souffle atomique.
Un public habitué.
C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui les entrepreneurs d'identité.
Bah, c'est super, on voit que les motards se mobilisent.
C'est gratuit et on ne vend rien, c'est neutre, donc profitez-en.
L'Auberge espagnole, une émission de la rédaction de Divergence FM, présentée par Gilles Couget.
Tout l'an 2012, ça va se travailler. Puis début 2013, on lance ça en France.
Et début 2014, on vous promettra un nouveau générique. L'Auberge espagnole de ce mardi 19 novembre 2013. Au sommaire, on parlera d'un groupe d'étudiants en 5e année de droit à l'Université Montpellier 1 qui organise en partenariat avec l'association SIDAction une journée d'information et de sensibilisation des étudiants dans le cadre de la lutte contre le SIDA. Et puis on abordera divers thématiques avant de recevoir nos invités suivants. À commencer par la mobilisation générale dans l'enseignement supérieur et de la recherche avec beaucoup d'actions entre le 18 et le 30 novembre. On parlera aussi d'une enquête sur le travail à temps partiel dont les résultats seront rendus ce 25 novembre à 11h. Et puis on parlera aussi des sauveteurs en mer et de la campagne qu'ils vont lancer à partir de décembre 2013 pour trouver des sous, ma bonne dame, puisque les sauveteurs en mer, c'est quand même 76% de ressources privées, eux qui sont souvent confondus avec un service public. Et puis ensuite, on parlera de ce qui vous attend ce mercredi soir au Secret Place, à savoir le concert des Nîmois de Mofo Party Plan, qui joueront donc à Saint-Jean-de-Védas, membres de la pépinière Label Paloma. Ils ont sorti leur premier EP le 28 octobre. Ils étaient également les lauréats de la bourse Jeunes Talents de la ville de Nîmes en 2011. Un groupe de rock fondé en 2010 par 4 musiciens nîmois. Donc, leur EP s'appelle Chupacabra. Il a été enregistré en avril de cette année à Paloma, réalisé par Gaëtan Deus. Un EP autoproduit illustré par Dorothée Clos. Si vous voulez tout savoir, on sera au téléphone avec eux. Et puis, pour terminer cette auberge espagnole, on sera au téléphone, pour une fois, avec Arnaud Laroche, qui, effectivement, d'habitude, nous rend visite en chair et en os. Il viendra nous parler de l'édition 2014 des Boutographies, une édition qui se déroulera du 17 mai au 1er juin de l'année prochaine. Et il vous reste jusqu'au 30 novembre pour vous inscrire. Et c'est en ligne que cela se fait. Pour l'heure, un petit peu de musique, car nous aurons de la musique dans cette auberge espagnole avec Guma Guma et Hope and Promises.
Dreaming, keep it down. A land of love for us, the like home. Home, I promise.
Et il manquerait plus que Betty Davis dans ce combo délirant de Gooma Gooma, énergisant, groovy à souhait, avec ce Hope and Promises, des espoirs et des promesses. Dieu sait qu'on en entend souvent dans le monde de la santé publique, et c'est encore une fois, on va dire, la force associative et bénévole qui prête la main. Alors aujourd'hui, on va parler de lutte contre le sida avec une journée qui se déroulera le vendredi 29 novembre, et c'est Marc Ginouves du Centre du droit de la consommation et du marché, étudiant en 5e année de droit, qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Alors, démarrer, comment vous est venue l'idée et combien vous avez été à vous dire, tiens, on va participer au SIDAction en organisant une journée de sensibilisation?
Alors, à l'origine, cette idée a été proposée par un membre de l'équipe pédagogique du Centre de droit de la consommation et du marché. Mmh. Et cette idée a très vite rencontré un vif succès dans la mesure où on s'est immédiatement... l'ensemble de la promo, on a décidé de se mobiliser donc afin de mettre en œuvre ce projet.
Mmh. D'organiser cette journée.
D'organiser cette journée. Et également donc aussi parce que le sida est une épidémie qui existe depuis plus de 30 ans, qui n'a malheureusement toujours pas disparu. Nous sommes donc sensibles à cela. Mmh. Il faut savoir notamment qu'il y a encore aujourd'hui 3 millions de séropositifs chaque année qui sont découverts depuis 2007. Mmh. Et également en France, selon l'Institut national de la veille sanitaire, l'INVS, un peu plus de 6 000 découvertes de séropositivité en 2011. Et notamment, parmi ceux-là, 1500 dépistages tardifs qui ont provoqué 300 décès liés au sida.
Oui, d'autant qu'il y a d'autres études qui sont sorties cette année qui disent que on peut chiffrer en dizaines de milliers les gens finalement qui sont porteurs et qui sont jamais allés faire le test aussi, quoi.
Oui, effectivement. Mmh. Et donc nous sommes investis afin d'une part soutenir l'effort de recherche afin de traiter cette épidémie mondiale, donc notamment par la collecte de fonds puisque cela nécessite un financement. Et participer à la sensibilisation qui est toujours nécessaire aussi vis-à-vis non seulement de la maladie, mais aussi de la discrimination que subissent au quotidien les personnes qui sont atteintes de ce virus,
ouais. Mmh.
Aussi bien au quotidien que dans leur vie professionnelle d'ailleurs.
Mmh. Alors là, sur la partie information, c'est ce vendredi 29 novembre que ça va se passer, avec j'imagine des associations de lutte contre le sida qui seront aussi présentes.
Oui, nous avons un partenariat en fait avec Sida Info Service, qui est une association locale qui est directement partenaire de SIDAction. Mmh. Et également le comité de l'Hérault et de l'éducation pour la santé. Alors, notre objectif, est donc, comme je vous l'ai dit, est double. Nous allons d'une part collecter des fonds que nous allons intégralement reverser à SIDAction via SIDA Info Service. Mmh. Alors, notamment...
Collecter des fonds pendant cette journée-là ?
Pendant cette journée-là.
Auprès des étudiants possiblement
présents ? Auprès de toute personne qui souhaite tout simplement... nous faire bénéficier d'un don, via la vente de rubans, notamment le 29 novembre. Mais nous allons aussi organiser, cette fois-ci le 27 novembre, en fait, deux jours avant, une journée petit-déjeuner et goûter, en fait. Donc, nous, les étudiants du CDSM, en fait, nous allons amener différentes pâtisseries, gâteaux et également du salé avec des quiches, par exemple, fait maison, et qui sera ouvert à tous. Donc, vous-même, si vous avez une petite faim... Vous êtes voilà, bien évidemment le bienvenu.
Donc c'est pas uniquement à destination finalement des étudiants, mais de toute la population.
Oui, oui, bien entendu. Mm-hmm. L'événement se déroule certes dans le bâtiment 2 de l'université de la faculté de droit.
Donc ici au centre-ville.
Oui, ici en centre-ville, mm-hmm. 14 rue du Cardinal Cabrière. Mais c'est bien entendu ouvert à tout le monde. Et en ce qui concerne donc notre deuxième objet, la sensibilisation, nous allons procéder à distribution d'affiches et également de préservatifs. Et nous aurons également un intervenant en provenance donc de SIDA Info Service qui sera disponible sur le stand pour recevoir notamment en privé toute personne qui souhaiterait le consulter pour quelque raison que ce soit, mais bien sûr que la personne soit atteinte ou connaisse quelqu'un dans son entourage, voilà, qui souhaite en discuter en privé. Nous allons mettre à disposition les locaux du CDCM pour cela. Et donc,
donc ça fait pas mal de choses à faire pour ces deux journées. Est-ce que ça se déroule dans le cadre d'une initiative plus large au niveau national ou est-ce que c'est vous à Montpellier vous avez dit tiens on va faire ça maintenant?
Non, c'est nous qui nous sommes dit on va faire ça, on va aider SIDAction notamment. Participer, voilà.
Pour relayer l'information et puis en parler. Alors vous au sein de votre groupe et plus largement vu que vous êtes voilà encore étudiant etc. C'est quoi les préoccupations des gens par rapport au SIDA parce qu'on a vu cette année qu'il y a un nourrisson de 6 mois qui a guéri du syndrome donc ça fait beaucoup de bruit dans la presse scientifique etc. Il y a des tas de pistes qui se dégagent mais enfin comme vous l'avez rappelé ça fait 30 ans que ça dure. C'est quoi les sentiments qu'ont les gens de vos générations en ce moment par rapport à cette question?
En ce moment, on a plutôt le sentiment, alors on ne va pas encore vers une guérison totale, mais au moins vers des traitements qui sont de moins en moins contraignants pour la vie de tous les jours. Mais au-delà de l'aspect maladie, il y a l'aspect social, parce que les personnes qui sont atteintes subissent malheureusement surtout des discriminations en raison de cette maladie. Donc,
Est-ce que les gens n'ont pas un peu le sentiment aussi que, justement, tu parlais des traitements, les traitements ont fait beaucoup de progrès, c'est-à-dire on vit avec le syndrome plus ou moins bien, et du coup, ça a un petit peu endormi l'opinion publique et les médias, parce que finalement, ça se calme, c'est plus un scoop, etc. Quoi.
C'est plus un scoop, et c'est vrai qu'il y a moins de décès, et... c'est toujours moins contraignant qu'avant, malheureusement, le problème n'est toujours pas réglé. Et... Donc, l'idée est simplement d'apporter notre soutien pour favoriser la résolution de ce problème.
Et c'est une bonne idée. Donc, on rappelle les deux rendez-vous. Ce sera donc le 27, toujours au même endroit.
Toujours au même endroit, oui.
Donc à la fac de droit ici.
Au bâtiment 2, 14 rue Cardinal Cabrière.
Donc le 27 pendant toute la journée.
Oui, toute la journée, jusqu'à environ 16h à peu près, 16h-17h.
Et le 29 avec un événement un petit peu plus gros, avec la présence des associations, des stands, etc. Pour tout le monde. Marc, merci d'être venu nous en parler. Puis bravo pour cette initiative.
Merci à vous.
On va se quitter avec encore un petit peu de musique. Alien in my belly, c'est Wax Taylor qui nous accompagne. Merci.
Merci, au revoir.
This young woman is suffering.
Away. dreams, deep dreams, their conscience.
I hear an alien voice.
Et voilà, c'était Wax Taylor avec Alien in My Belly, ce que je ne souhaite à personne. Quelques petites informations qui valent leur pesant de cacahuètes. Une mobilisation générale dans l'enseignement supérieur et la recherche du 18 au 30 novembre 2007, notamment, puisque c'était ce dimanche 17 novembre que l'appel de l'Assemblée Générale de l'Université Montpellier 3 pour une journée nationale de mobilisation le jeudi 14 novembre. Et partout en France, les universités pratique des coupes budgétaires, la loi LRU puis la loi Fioraso qui s'inscrit dans sa continuité ont étranglé financièrement les universités. En décembre 2013, il y a une pétition nationale ouverte à toutes les signatures adressée à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Par rapport à ces préoccupations, les rencontres de la Confédération nationale, Coordination nationale des universités auront lieu le samedi 30 novembre 2013 et puis le 12 novembre. Le SNESUP FSU lançait un appel contre l'austérité. L'austérité n'est pas une fatalité. Un appel contre la politique d'austérité de l'enseignement supérieur et de la recherche pour le budget 2014. Bref, ils n'ont pas fini. Alors j'ai proposé aux précédents invités de dire leur mot là-dessus, mais ils ont préféré s'abstenir, même s'ils étaient de tout cœur avec les gens de Montpellier 3. Et puis, après les études, on se retrouve souvent au travail et de plus en plus au travail partiel. Ce lundi 25 novembre à 11h aura lieu une présentation de l'étude Le travail à temps partiel qui a donc fortement progressé depuis les années 70 avec une nette accélération dans les années 80 et surtout 90. Si depuis les années 2000 les fluctuations ont été moins marquées, la part du temps partiel dans l'emploi représente désormais près d'un cinquième de l'emploi, soit deux fois plus qu'il y a 40 ans. Une étude rapportée par Françoise Milewski, personnalité associée au nom de la section du travail et de l'emploi présidée par Françoise Geng du groupe CGT est présenté le 26 novembre au Conseil économique, social et environnemental qui s'est attaché à dresser un état des lieux de ce phénomène afin de comprendre les facteurs qui l'ont favorisé et les résultats qu'il a produit. Une étude qui préfère parler des temps partiels pour rendre compte des réalités diverses que ce terme recouvre. Elle montre que cette forme d'emploi est au carrefour des transformations du marché du travail, de l'articulation entre temps professionnel et temps familial et des politiques publiques. Elle vise également à susciter les réflexions sur les perspectives d'évolution du temps partiel. Un point presse de cette présentation de l'étude aura lieu donc ce 25 novembre à 11h. Ça sera au club de... ce sera à Paris, au siège du Conseil économique, social et environnemental. Restez à l'écoute. Et puis la semaine prochaine, on aura le président de l'association des sauveteurs en mer qui, pendant tout le mois de décembre, va lancer une campagne. Une campagne donc lancée sur les grands médias, la télévision, un appel aux dons porté par Thierry Lhermitte comme mascotte et avec pour accroche « Sauveteur en mer, je suis solidaire ». Des secours qui sont portés en mer toute l'année, par tous les temps, de jour comme de nuit, des sauveteurs en mer qui doivent pouvoir compter sur une flotte de sauvetage et des équipements de haute technologie qui puissent garantir leur sécurité et l'efficacité de leurs interventions. Avec, vous l'imaginez, des dépenses d'investissement, de maintenance et de fonctionnement ainsi que des dépenses de formation des sauveteurs qui pèsent de façon croissante dans les budgets de l'association. L'association donc qui tire un petit peu la sonnette d'alarme puisque le contexte de tension sur les ressources publiques de l'État et les collectivités territoriales fait qu'en 2012, les ressources privées représentaient 76% du total des ressources de l'association. Il est donc urgent aujourd'hui pour l'association d'élargir la base de ses donateurs qui constituent aujourd'hui 60 000 donateurs, un chiffre trop faible si on ne le rapproche pas des quelques 500 000 bateaux de plaisance du parc français. La campagne d'appel aux dons est lancée commencer à partir de décembre, une période évidemment propice. Les donateurs imposables pourront aussi déduire 66% de leurs dons à concurrence de 20% de leurs revenus, puisque c'est une association déclarée d'utilité publique. Ce sera donc la semaine prochaine qu'on en parlera plus en détail avec le président de cette association. On va rester dans les histoires maritimes avec la mer de la tranquillité, Sea of Tranquility, et cet extrait des Soil and Pip Sessions. Les Soil and Pip Sessions. Dans cette partie culture de l'auberge espagnole, on va parler dans quelques petits instants de l'appel à candidature des Boutographies 2014, mais auparavant de ce qui vous attend demain soir sur la scène de la Secret Place à Saint-Jean-de-Védas avec un triple concert de Bleach, Mofo Party Plan et Scénario. Scénario, c'est un groupe indie rock de Montpellier. Bleach, c'est la tête d'affiche. C'est un trio de jeunes britanniques composé de deux filles aux cordes et un garçon au fût. dans la plus pure tradition anglaise des guitares cinglantes, la batterie puissante et précise et les voix charmeuses, comme les demoiselles d'ailleurs. Un déferlement d'énergie rock, ce seront donc les têtes d'affiche demain soir, mais les locaux de l'étape, à défaut que ce soit Scénario qui soit avec nous, c'est les Nîmois de Mofo Party Plan qui ont sorti leur première EP cette année, très récemment, c'était le 28 octobre, qui s'appelle Chupacabra, et qui sont avec nous au téléphone pour parler de leur musique et du concert de demain soir.
I feel something in my head. Something strange in my brain. Wake my feelings, baby. Check my self health. And you know what? I'll never feel like this.
On est au téléphone avec Simon, guitariste chanteur de Mofo Party Plan, et Jesse qui est guitariste. Salut à tous les deux.
Salut.
On vous a au téléphone parce que vous avez de l'actualité. Vous serez ce 20 novembre à la Secret Place à Saint-Jean-de-Védas. Et puis vous faites partie un petit peu de la pépinière de la Paloma. Alors racontez-nous un petit peu l'histoire de ce groupe Mofo Party Plan, et peut-être en commençant par comment vous avez choisi le nom du groupe.
Le nom du groupe, alors à la base c'est... une référence du deuxième album ou troisième album de Rebel Chili Peppers qui s'appelle Uplift de Mofo Party Plan. Et donc c'est un petit clin d'œil, et en même temps littéralement ça veut dire un bon plan de soirée, donc c'est plutôt cool.
Ouais, un bon plan de soirée un peu trash, mais enfin on va pas digresser.
on peut l'entendre
comme ça.
Ils mettent plusieurs contextes, ouais, c'est vrai. C'est un peu ça peut être trash.
Ok. Le groupe s'est formé quand ?
Le groupe s'est formé en avril 2009.
Uh-huh.
Et voilà.
Voilà. Et c'était quoi la connexion entre vous quatre ? C'était les études,
ouais,
le quartier ?
Ouais, c'est ça. On est copains de lycée.
Ouais. On s'est rencontrés grosso modo au lycée. Charles et Maxime, qui sont respectivement le bassiste et le batteur, son frère, donc ils se connaissent depuis la naissance, nous on est en fait, on s'est tous retrouvés au lycée, quoi.
Ok. Et
cliché.
Ouais, un petit peu le truc cliché, mais bon, c'est les années où on a pas mal de temps pour travailler l'instrument en même temps. Ça, vous l'avez démarré quand, ce travail de la musique?
Bien, en fait, actuellement, on est tous au Conservatoire de musique actuelle de Nîmes. On suit des cours avec François Carpita et Vincent Barnavol. Et donc, on est au Conservatoire depuis 3 ans maintenant, grosso modo, depuis entre 3 et 4 ans. Il y en a qui sont rentrés avant. Et on a commencé la musique dans une école de musique de Marguerite, donc juste à côté de Nîmes. Et ça, on était au collège. Ouais, on était au collège en 3e. Voilà.
D'accord. Tous les
donc, disons, ça fait bien 10 ans.
Et tous les quatre, vous aviez commencé dès le collège à prendre des cours ?
C'est ça, on a tous. Le batteur Maxime a commencé un peu plus jeune. Il a commencé, il me semble, la batterie à 10 ans, 11 ans, quelque chose. Tous, sinon, on a commencé à l'âge de 14 ans. On est rentré justement dans cette école de musique.
En rentrant dans l'école de musique, est-ce que tout de suite, quand vous avez commencé à monter le groupe, vous vous êtes dit, c'est un projet professionnel ?
Non, pas de suite, quand même pas. Non, on s'est jamais dit que du premier coup que ça allait être professionnel. Et d'ailleurs, on vient juste à peine de rentrer dans la phase, on sort de la phase, on touche du doigt la phase professionnelle, on va dire. On la touche à peine du doigt maintenant, et c'est là où que cette année qu'on peut dire, pourquoi pas tenter le coup vraiment, quoi. Mmh. Voilà.
Donc en fait, le groupe est tout jeune, hein, 2009, on va dire les premiers morceaux, le répertoire, il a commencé à se monter en 2010, du coup, c'est ça ?
Oui, c'est ça, mais on a changé de répertoire depuis. Ça...
Ah. En fait, avant, on faisait du punk un peu.
Ouais. On a plus trouvé vers quoi on voulait aller, et on sait tous, en fait, on a appris au fur et à mesure, au bout de 2-3 ans, à bien se connaître, à savoir. Et en fait, à se rendre compte, on était qu'on voulait aller dans la même direction, et on a réussi à, on commence à trouver notre identité, et c'est cool.
C'est dur de se trouver une identité, c'est clair, parmi tout ce qu'il y a, il y a forcément des influences, et avec les influences, nos goûts musicaux ont changé, et après ce qu'on produisait en groupe aussi, quoi, forcément, et voilà. Mm-hmm. Donc, notre set actuel s'est composé vraiment l'année dernière, on a fait un travail de sous-marin l'année dernière. Et bon, ça fait 2 ans voilà, qu'on a ce style-là de musique, et l'année dernière, on a composé notre EP, en fait.
Ok, alors du coup, dans ce travail de composition, qui c'est qui fait quoi ?
En fait, le processus de composition d'un groupe, ça se passe qu'il y a chacun, on amène une idée, on répète, par exemple, et ça peut être n'importe quoi, genre un groove de batterie, une mélodie, de la voix, etc. Et on construit autour de ça, et voilà, on met tous la main à la pâte dans la composition, et voilà.
Après, ce qu'on aime bien aussi, c'est surtout quand on parle de paroles, donc les paroles, c'est moi qui les écris, mais avant de les écrire et de passer sur le papier, il y a quand même les mélodies qui arrivent en premier au niveau de la voix, et on veut pas se mettre trop de barrières, on veut plus chercher des atmosphères, des couleurs, avant de créer forcément une histoire. L'histoire est vraiment dans le second plan, et il y a les paysages qui se forment avant que les personnages arrivent, quoi. Enfin voilà. Mmh.
À ce titre, vous diriez plutôt que votre musique, elle est essentiellement pop, du coup ?
Bah, elle est pop rock, clairement. Enfin, avec plutôt en pop rock anglais, quoi. Voilà, uh-huh. On chante en anglais. Voilà, on essaye d'y intégrer quelques éléments comme l'électro, des grooves un peu afro-beat, mais voilà, elle est pop.
Tellement pop.
C'est pas en mal, on adore le pop rock.
Oui, non, c'est juste pour coller une étiquette parce que les gens ont toujours besoin de références. Ça permet de savoir un petit peu où on va. Alors vous êtes allé, vous avez fait pas mal de concerts en fait depuis que le groupe s'est formé.
Au début du groupe, hein, on a pu écumer. Paloma n'existait pas, hein, mais on a pu écumer toutes les salles et tous les bars de Nîmes parce qu'il n'y avait pas vraiment de salle à Nîmes pour faire des concerts. Mmh. Et vu qu'on vient de Nîmes, on est un groupe clairement de la région et on a tout fait des bars possibles à Nîmes.
En fait, comme l'a dit tout à l'heure Simon, l'année dernière, on a travaillé en sous-marin pour préparer l'EP. En fait, pendant grosso modo 7-8 mois, on n'a pas fait de concert. C'était volontaire comme choix. On a décidé de s'enfermer et de composer l'EP qui allait venir. Et du coup, là, on a repris les concerts depuis septembre. Et là, on commence à faire pas mal de dates. On a fait récemment la première partie de Falls à Paloma. Mmh.
Ouais. Et on avait fait l'inauguration de la SMAC à Nîmes, Paloma. Pour le chantier de la SMAC, on avait fait la première partie de Rapture.
Quel rôle a joué Paloma dans cette histoire ? Je crois que vous faites partie un petit peu de leur pépinière.
C'est ça. Il y a une sélection qui a été faite. On a pu se faire remarquer grâce aussi à la bourse des jeunes talents à Nîmes, qu'on a gagné. On a gagné un tremplin qui s'appelle la Bourse des jeunes talents de Nîmes. Et juste l'année d'après, Paloma arrive et donc du coup, ça a pu vachement nous aider à rentrer dans la pépinière puisqu'on avait fait une bonne maquette. Et voilà quoi. Et donc cette pépinière de Paloma, elle nous apporte justement un lieu de concert. Voilà, on a fait la première partie de Fall, c'est complètement grâce à eux. Elle nous ouvre des portes, en fait, non, elle nous donne des clés pour ouvrir des portes. Donc elle nous renseigne sur le milieu professionnel, le législatif, autant que sur la scène. Il y a Christian Bordarier pour s'occuper du législatif, la SACEM, tout ça. Et au niveau de la SACEM, il y a même un coach scénique et tout. Enfin, c'est vraiment très bien fait. Et on les remercie pour ça, c'est extra quoi.
C'est un accompagnement qui est limité dans le temps, j'imagine.
Voilà, oui, c'est ça. En fait, en gros, c'est 2 ans. La période, c'est pas vraiment limité dans le temps en fait, mais c'est la période moyenne, c'est 2 ans. Après, selon l'évolution du groupe, selon les besoins de chaque groupe, parce que chaque groupe est différent et que chaque groupe dans la pépinière n'est pas au même stade. Ça peut être assez adapté.
Par exemple, avec nous, à la pépinière, il y a un groupe qui s'appelle CT Match, un groupe montpellierain, de rap, hein, qui est vachement plus avancé que nous, par exemple, en termes de professionnalisation. Et ils n'ont pas dû faire le même travail qu'avec nous. Il fallait d'abord qu'on sorte un EP. Leur EP était déjà sorti. Eux, c'était plus un travail de booking et comment sortir la tête de l'eau, quoi. Voilà. Enfin, émerger, quoi.
Alors cet EP, il sera disponible, j'imagine, à la Secret Place ce 20 novembre, histoire que ça aille directement du producteur au consommateur.
Et de mano à mano, on va faire la vente là après le concert, et si les gens sont intéressés, c'est clair. Et ça sera, il sera là, il est en plus il est très beau, hein, si je peux me le permettre. il est aussi disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Donc il est sur Deezer, on peut l'écouter gratuitement. Spotify, iTunes, etc. Enfin, vraiment surtout tout ce qui se fait, quoi.
Le titre, c'est Chupacabra, du nom du démon mexicain. Comment s'est fait cette rencontre avec cette figure légendaire d'Amérique du Sud?
Alors, c'est compliqué à expliquer pourquoi. C'est compliqué, mais tout simplement aussi parce qu'on voulait donner un côté un peu gringos, déjà au niveau de la couleur, au niveau de l'esthétique. Et bon, rien qu'à la sonorité, tu l'as très bien prononcé, Chupacabra, ça sonne un peu mexicain, tout ça, même si on fait pas de la musique comme ça, exactement, mais... Et aussi, on a voulu mettre une piñata sur notre EP, un peu déchiquetée, avec à l'intérieur...
un squelette
des os et un cœur humain, enfin un cœur d'une bête, par exemple, et cette piñata, elle se serait fait dévorer par une bête qui se serait appelée la Chupacabra, tu vois. Et tout ça pour dire que notre musique, elle peut être festive en même temps, hargneuse et méchante aussi, voilà. Mais sans prétention, monsieur.
Eh ben c'est fort bien expliqué. J'encourage tous ceux qui nous écoutent à se rendre à la Secret Place ce 20 novembre. On vous souhaite d'ici là une bonne route et puis pas mal de réussite pour la suite.
Merci beaucoup. J'espère qu'on nous a bien entendu au téléphone.
Et, pas de problème.
Et au vin.
Parfait. Salut.
Salut. Salut.
Les Nîmois de Mofo Party Plan qui, avec Scénario, groupe de Montpellier, assureront les premières parties des Britanniques de Bleach. C'est demain sur la scène du Secret Place. Une bonne soirée pour un tarif adhérent de 11€ si vous voulez absolument tout savoir. Dans quelques mois, ce sera le moment de sortir vos appareils photo ou vos petites gambettes et d'aller voir l'exposition des boutographies. Le concours refermera ses inscriptions ce 30 novembre, c'est en ligne que ça se fait sur boutographies.com.
Ce que c'est beau, la photographie, les souvenirs sur papier glacé. Pas de raison pour qu'on les oublie, les beaux yeux, les beaux jours passés. Ce que c'est beau, la photographie, le soleil qu'on fait prisonnier. Pas raison pour qu'on les oublie, les petites femmes en tirant bébé. En noir et blanc, au 50e, ça fait l'effet sur l'amateur. Et c'est pas rare qu'on s'en souvienne, comme si elles étaient en couleur. Parce que c'est beau, la photographie. Bougeons plus, l'amour va passer. Y'a pas de raison pour qu'on oublie sa petite gueule sur l'instantané.
Ne bougeons plus.
Nous sommes au téléphone avec Arnaud Laroche. Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Alors d'habitude c'est en chair et en os que tu viens dans les studios de Divergence pour parler notamment des boutographies, mais aussi des divers événements et expositions qu'organise Grain d'Image, puisque c'est le nom de l'association, c'est bien ça ?
Oui, oui, exactement.
Alors on est là pour parler de l'appel à candidature de l'édition 2014 des boutographies, un appel à candidature qui va se refermer le 30 novembre, donc il reste une grosse dizaine de jours. Une inscription à bien préparé en 3 étapes, si j'ai bien compris.
Il faut suivre assez, simplement ce qu'il y a sur notre site internet, à savoir que depuis 2 ans, on fait ça par directement sur le site. Ça évite d'envoyer des dossiers par la poste. Donc, il faut bien préparer avant les 3 fichiers qu'on demande, à savoir un CV, un texte sur l'exposition et un fichier zip qui regroupe toutes les images.
Aujourd'hui, on en est à combien d'inscrits? Combien reste-t-il? Enfin, est-ce que la liste est ouverte?
Alors, en fait, c'est un petit peu compliqué à dire parce que, en général, les gens envoient les dossiers vraiment un peu à la dernière minute.
Ah.
On a d'ailleurs regardé l'année dernière parce que on se demandait si on avait beaucoup de dossiers ou pas, et on s'est aperçu que sur les 6 derniers jours l'année dernière, plus de 50% des dossiers sont arrivés.
D'accord. Donc ça veut dire que vous préparez à passer quelques jours fébriles.
Exactement, oui. En fait, c'est comme ça chaque année. On a un peu peur qu'il n'y ait pas assez de dossiers ou qu'il n'y ait pas, je sais pas, que l'appel à candidature n'a pas fonctionné. Et puis finalement, ça passe. Ça nous fait juste battre le cœur un peu plus.
Alors, est-ce qu'il y a un thème pour ces boutographies qui se dérouleront du 17 mai
non,
au 1er juin?
Comme d'habitude, il n'y a jamais de thème. On préfère ouvrir ça à tous les photographes. Ça peut permettre comme ça de tomber justement sur quelqu'un... un jeune novice qui a du talent mais qui le pense peut-être pas, et puis qui se lance dans l'histoire comme ça un peu par chance.
Trois prix seront décernés à l'issue des boutographies 2014 qui se dérouleront donc du 17 mai au 1er juin. Le prix du jury d'un montant de 1000 euros plus achat de tirage par la ville de Montpellier pour un montant de 2500 euros. Le prix échange, un échange avec le festival Photo Legendo de Rome. Le prix du public, visibilité du travail primé sur le site de Midi Libre et matériel Mac offert par un partenaire. Et puis deux coups de cœur partenaires, Réponse Photo et Arte Action Culturelle. Est-ce que d'année en année vous parvenez à faire évoluer les dotations des boutographies?
Alors en fait on a un petit peu stagné quelque part, parce que on souhaite pas non plus est-ce qu'il y ait trop de prix, parce que sinon ça dévaloriserait ceux qui sont là en ce moment. Après, ce qu'on met en place, ce sont des échanges avec des galeristes qui viennent sur le festival et puis qui éventuellement viennent prendre des expos pour chez eux, ce qui serait peut-être le cas avec la Suisse.
D'autre part, les boutographies, ça commence à être une assez longue histoire à Montpellier. Est-ce que vous tissez des liens petit à petit, année après année, avec d'autres événements photographiques, qu'ils soient régionaux, nationaux ou internationaux?
Alors, internationaux, il y a Rome depuis maintenant 6 ou 7 ans.
Mm-hmm.
Je parlais là justement de la Suisse avec une galerie. On a créé des liens aussi sur Paris avec d'autres galeristes ou des lieux d'exposition. Et c'est vrai qu'on cherche un autre festival européen qui pourrait se joindre en fait au prix échange. On pense notamment à un festival qui est en Lituanie. On va essayer de s'y rendre très prochainement.
Donc le festival, finalement, année après année, devient sur la carte de visite d'un photographe une bonne référence.
Mais c'est un petit peu vers quoi on essaye d'aller, parce que c'est vrai que les photographes ont besoin de ça. Et puis c'est bien en fait d'être un tremplin pour ces gens-là.
Combien de candidats l'année passée, les années précédentes, il y a une progression régulière?
Alors dans le nombre de dossiers, effectivement, il y a eu une progression régulière quasiment depuis le début des boutographies, à l'exception d'une année où on a eu un petit peu moins de dossiers, c'était il y a 2-3 ans, mais c'est toujours en progression.
Ce qui donne à peu près pour l'année dernière de mémoire?
Alors l'année dernière, on a dépassé de justesse les 500 dossiers. C'est d'ailleurs, ça nous a amené justement à pouvoir présenter plus de photographes sur le festival. Et c'est de là où sont nés en fait ce qu'on appelle les projections du jury. L'année dernière, on avait présenté 20 photographes de plus. Parce que ça nous gêne en fait parfois de se retrouver avec des dossiers en fin de sélection qu'on pourrait pas présenter alors que ce sont de bons dossiers. Mais on peut pas écarter non plus les murs du pavillon populaire. Donc on a créé cette section en projection.
Alors 500 candidats, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de clichés à visionner. Le jury se compose de combien de personnes?
D'abord, il y a une présélection qui est faite par l'association, parce qu'évidemment, on peut pas présenter 500 dossiers à un jury. Du coup, on en présente à peu près une centaine, mmh. un petit peu moins. Et le jury se compose en général de 5 à 6 personnes.
Qui sont tous des professionnels du secteur locaux?
Alors, ils sont tous du secteur de la la photographie, mais pas forcément locaux. Hein. Mm-hmm. On en a quelques-uns d'ici, mais on en a de Paris, notamment des gens qui viennent soit de résidences d'artistes, ça peut être aussi des galeristes, ça peut être des critiques d'art.
La composition du jury 2014 est-elle déjà faite et comment ça se passe? Est-ce que chaque année c'est les mêmes ou est-ce que, j'imagine, il y a un renouveau régulier?
Effectivement, le jury est composé depuis un moment maintenant. Il est quasiment différent chaque année. Les seules personnes qui reviennent chaque année, c'est évidemment une personne de l'association, c'est Christian Makota qui est le directeur artistique du festival. Il y a aussi un représentant, un membre du collectif Transit avec qui on travaille régulièrement depuis maintenant une dizaine d'années. Et puis il y a un photographe de l'édition précédente qui rentre dans le jury. Donc ça, on va dire que c'est entre guillemets les trois personnes qui reviennent. Ensuite, on cherche évidemment des nouvelles personnes pour entrer dans le jury et souvent aussi des gens qui soit ne connaissent pas la manifestation, ne se sont jamais déplacés pour venir la voir, soit des gens qui nous connaissent et qui nous demandent depuis quelques années à faire partie du jury.
Donc on va vous souhaiter tout plein d'endurance pour la fin des inscriptions. Je rappelle qu'on peut s'inscrire sur boutographie.com, boutographie IES à la fin, jusqu'au 30 novembre, c'est dans 11 jours. Donc hâtez-vous. Bon courage pour la dernière ligne droite de sélection et puis pour l'organisation de cet événement dont ce sera la combientième édition?
Ce sera la 14e.
La 14e. Voilà, Arnaud Laroche, merci beaucoup. Je rappelle que c'est boutographieies.com. On peut aussi contacter directement les boutographies. L'association Grain d'Image, le bureau du festival se trouve 9 rue Joachim Colbert, 34 000 Montpellier. À très bientôt sur les ondes de Divergence.
Merci.
Les belles heures des beaux autrefois. Est-ce que c'est beau la photographie? On choisit l'instant et l'endroit. Pas raison pour qu'on les oublie, les petites femmes en petites robes à toi.
En noir et blanc, on voit pas comme
ça fait de l'effet sur l'amateur. Mais qu'une main ouvre l'album et tout se retrouve en couleur. Est-ce que c'est beau la photographie? Bougeons plus, la cour va passer. 1, 2, 3, c'est la plus jolie. Agrandi, vous l'encadrerez.
Ne bougeons plus.
Attention, 1, 2, 3, j'appuie.
On sourit pour l'éternité.
Les frères Jacques, la photographie, les boutographies, ce sera donc jusqu'au 30 novembre que vous pourrez vous y inscrire sur boutographieies.com. Something to share, quelque chose à partager, mes bons amis. Eh ben, quelque chose à partager, ça va être de la musique cet après-midi sur les ondes de Divergence ou quelle que soit l'heure à laquelle vous nous écoutez. On vous souhaite une belle après-midi. Bruno Bertrand a réalisé cette émission proposée par Gilles Bouget. On vous souhaite d'ici la semaine prochaine d'excellents moments à l'écoute ou non des morceaux de musique et des ondes de Divergence FM. C'est les Shaolin Temple Defenders, nouveauté de cette semaine, qui vous accompagne. Salut.
I always got some
that's how I'm feeling, share my baby love. Honey, I need you. I always got a little love inside, share with my baby love. Oh yeah, I always need a love from you, oh, to share with one another, baby.